Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 13 février. Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous, 36e victoire de la musique, le Sacre de Pomme et de Benjamin Biolay. Rien de réjouissant, un premier cas de réinfection grave par le variant sud-africain du coronavirus décrit par des chercheurs français. Néanmoins, la France est toujours dans un état stable concernant les contaminations. Les soldes prolongés de 2 semaines jusqu'au 2 mars et puis fermés depuis 4 mois à cause de la pandémie. Une piscine extérieure a obtenu l'autorisation d'ouvrir. Elle a chauffé son eau à 28 degrés. C'est une bonne nouvelle pour les enfants de la zone C qui démarrent leurs vacances et qui peut-être pourront en profiter.
Les invités de cette matinale, dans 20 minutes, Patricia Martin, vous recevrez...
Laura Berlingot, elle est gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et elle publie un livre intitulé « Une sexualité à soi », c'est aux éditions des Arènes.
Et puis à partir de 8h20, question politique ce matin avec l'eurodéputé du Rassemblement National, Thierry Mariani.
France Inter.
Le nom de son album aura donc été prémonitoire.
Et oui, parce qu'il s'appelle Grand Prix de Benjamin Biolay, sacré meilleur album de l'année. Le chanteur est également l'artiste masculin de l'année. Un beau doublé pour Benjamin Biolay qui a 48 ans. On est à sa 6e récompense aux victoires. Et puis chez les femmes, Pomme, âgée de 24 ans, est couronnée du prix artiste féminine de l'année. Retour sur cette soirée marquée aussi par un big up à Jane Birkin, Mathieu Culeron.
X-Fan 60s, petite baby doll.
Parmi les moments forts de ces 36e victoires de la musique, la victoire remise à Jane Birkin pour l'ensemble de sa carrière, des reprises de Vanessa Paradis, Étienne Dao, Eddie Depreto ou encore Thomas Dutronc, et un discours de sa fille, Lou Doyon.
Je t'ai écrit un petit truc. Je vais essayer de le faire.
C'était très étonnant parce qu'il y avait Lou là, ma fille Lou, alors que je m'attendais à qu'elle soit derrière la télévision, c'est ce qu'elle m'avait dit. Déballer toute ma carrière comme ça, c'était vraiment très, très émouvant en fait.
Le grand vainqueur de la soirée, c'est bien Benjamin Biolay qui repart avec la victoire de l'artiste masculin de l'année et le meilleur album, le chanteur qui ne cache pas son bonheur.
Ah, c'est vraiment très plaisant dans une période aussi dure. Moi, j'ai été extrêmement touché. J'ai commencé il y a longtemps, en fait. La première fois que j'ai eu la chance d'en avoir une, c'était il y a 20 ans. Et là, je me dis peut-être c'est la dernière fois que je suis là et tout, que j'en profite tout particulièrement.
La lauréate est Pomme.
Et puis, il y a Pomme qui repart avec un deuxième trophée. En 2 ans.
Je l'espérais peut-être un petit peu, je me disais, ah, si j'ai été révélation l'année dernière, peut-être que cette année je serais légitime d'avoir ma place parmi les artistes féminines, mais je pense que c'était dans un coin de ma tête, mais que je n'osais pas trop y penser surtout.
Une cérémonie des victoires qui, malgré le contexte, a tenu toutes ses promesses, une mise en avant des talents d'aujourd'hui et de demain.
Mathieu Culeron. Le coronavirus est parmi nous pour longtemps et le monde doit s'y préparer. Avertissement lancé hier par l'Agence européenne des maladies. D'autant qu'une première inquiète. Pour la première fois, des scientifiques ont décrit un cas de réinfection grave par le variant sud-africain. Le malade est un homme de 58 ans, infecté légèrement, une première fois avec le Covid classique, il y a 4 mois. Et aujourd'hui, il se trouve gravement réinfecté par ce variant sud-africain, hospitalisé pour détresse respiratoire en région parisienne. CQFD, les anticorps que possédait encore le malade n'ont pas servi à l'immuniser. Ce premier cas en France de réinfection a fait l'objet d'une publication par l'équipe du professeur Jean-Damien Ricard dans la revue Clinical Infectious Disease. Il répond à Hélène Chevalier.
C'est un patient qui a eu une infection par la Covid documentée en septembre 2020, de forme assez mineure, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation, qui par la suite donc a guéri, qui a eu 2 autres dépistages négatifs en décembre et qui s'est présenté dans un tableau de détresse respiratoire aiguë, faisant évoquer une nouvelle infection par la Covid-19, qui était pris en charge dans le service, qui a dû être rapidement mis sous assistance respiratoire et dont les premiers prélèvements ont montré de nouveau la présence du SARS-CoV-2. Le séquençage a confirmé qu'il s'agissait bien du variant sud-africain. C'est préoccupant parce que ça veut dire que le fait d'avoir fait une infection Covid par un non-variant ne protège pas, en tout cas pour ce cas particulier, d'une réinfection avec une forme sévère avec le variant sud-africain.
Le professeur Jean-Damien Ricard avec Hélène Chevalier. Un variant sud-africain qui progresse en Moselle en particulier. 100 nouveaux cas de variant par jour. Le département au taux d'incidence le plus élevé du territoire. territoire est sous haute surveillance. L'hypothèse de restrictions locales sont à l'étude et notamment fermées, pourquoi pas, les écoles plus tôt que les vacances prévues dans une semaine dans cette région. Et en attendant, Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était en déplacement hier à Metz, a annoncé pour la Moselle un renforcement de la vaccination et une intensification des tests. 20 700 un nouveau cas de Covid-19 détecté ces dernières 24 heures en France. Ce sont les données de Santé publique France publiées hier vendredi. 26 424 personnes sont aujourd'hui hospitalisées, 3 298 en réanimation. Et puis le variant anglais, cette fois, du Covid-19 a été identifié chez 9 personnes en Guadeloupe et à Saint-Martin. Et puis enfin, les soldes d'hiver seront prolongés de 2 semaines cette année jusqu'au 2 mars. Annonce faite par Bercy hier soir. C'était une demande de plusieurs fédérations de commerçants. Satisfaction de Marc Sanchez, président du syndicat des indépendants, même si cette annonce, bien sûr, ne réglera pas tous les problèmes.
Sur le principe, effectivement, ça permet de prendre en considération les problèmes que nous avons déjà évoqués, c'est-à-dire que les soldes n'ont pas vraiment très bien fonctionné pour beaucoup de commerçants, d'artisans, en tout cas d'entreprises qui recevaient du public. La raison essentielle à ça, c'est la mise en place du couvre-feu à 18h, qui a nécessairement limité beaucoup de clients dans les boutiques, chaussures, vêtements, etc., etc. On a quand même des cumuls de pertes de chiffre d'affaires qui sont relativement importantes. On est aujourd'hui, depuis le début du mois de janvier, à des -20%, -30%. Qui viennent s'ajouter déjà à des pertes enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2020. On est à peu près dans le même ordre de pertes. Et bien évidemment, quand vous êtes en période de solde, vous vendez avec des marges qui sont beaucoup moins importantes. Donc, ça va pas permettre nécessairement d'améliorer les trésoreries. Alors oui, le stock pourra être un petit peu plus écoulé, mais au niveau des trésoreries des entreprises, ça restera quand même assez compliqué.
Marc Sanchez, président du syndicat des indépendants, avec Fabien Cazot.
L'actualité à l'étranger avec les manifestations qui continuent en Birmanie pour dénoncer le coup d'état militaire du 1er février.
Alors, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies surveille notamment de près la situation de plus de 350 responsables politiques, des représentants de l'État, des militants, des membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines, des étudiants. Autant de personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame des sanctions ciblées contre les responsables. Cette arme peut-elle être efficace pour résoudre la crise birmane ? Élément de réponse avec Olivier Poujade.
Il n'y a aucun doute pour le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme. Il faut frapper les généraux birmans au portefeuille, là où c'est le plus douloureux. Les sanctions ont déjà prouvé leur efficacité, dit Tom Andrews, et permis à la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, de bâtir une transition démocratique depuis 10 ans.
Même si le pouvoir de la LND et des élus birmans était limité par la Constitution, le fait est qu'ils ont pu organiser des campagnes. C'est la seule raison qui explique ce progrès démocratique, les sanctions ciblées, instaurées contre les généraux.
Embargo sur les armes, gel des avoirs de l'état-major, plusieurs vagues de sanctions ont tenté d'affaiblir le pouvoir militaire. Un état dans l'état, selon Bénédicte Braque de la Perrière, spécialiste de la Birmanie au CNRS.
Les sanctions sont un moyen dont on sait qu'ils touchent les classes les plus pauvres de la population, qu'elles ne font pas peur tant que ça aux militaires, qu'elles ne les ont jamais empêchés d'exercer leur pouvoir jusque-là.
Les intérêts personnels du général Min Aung Hlaing doivent être considérés comme l'une des motivations du coup d'État, écrivait dans un rapport cette semaine le collectif Justice pour la Birmanie. Le chef de la junte est aussi à la tête des deux plus importants conglomérats du pays, incontournables pour les investisseurs étrangers et bénéficiant de contrats particulièrement avantageux.
Olivier Poujade. Et si vous alliez piquer une tête à la piscine pendant les vacances? Non, vous ne rêvez pas, c'est possible. À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, la piscine intercommunale ouvre pour la première fois en hiver son bassin extérieur. Il sera chauffé, bien sûr, à 28 degrés. L'Agence régionale de santé et la préfecture ont validé le protocole sanitaire, ont donc donné leur autorisation. 46 nageurs pourront être dans l'eau simultanément. Faustine Calmel.
Il ne faut surtout pas se laisser refroidir par les températures extérieures.
Alors il faisait bien chaud à l'intérieur, on est sorti, il fait beaucoup plus froid.
Et se jeter à l'eau.
On va tester. Oh là là, il fait beaucoup plus chaud dans l'eau dehors.
Bon, moi je n'ai trempé que la main, mais Emmanuel, lui, est beaucoup plus courageux.
Il faut passer le bassin et aller dans l'eau, donc on sait très bien qu'il y a 5-10 secondes qui ne sont pas agréables. Surtout quand il fait moins 3 degrés et dehors. Mais une fois dedans, on sent bien, ça fait du bien.
C'est surtout pour Michel et Philippe beaucoup mieux que leur lieu d'entraînement habituel.
Dans les temps, 3 degrés à l'intérieur et 0 à l'extérieur, c'est quand même difficile. On y est allé 2-3 fois. Mais...
C'est un peu frais, donc la piscine, c'est le bienvenu, quoi. La dépense physique, ouais, le bien-être après, et le sport, la convivialité, de revoir un peu des gens. Et puis voilà.
On n'est pas venu hier, mais c'est pas l'envie qui nous en manquait. On s'est précipité.
Les responsables de la piscine s'attendent à une forte affluence pendant les vacances, sauf si le prix, à défaut des températures hivernales, refroidit les nageurs.
À 8 euros l'inscription, non. J'ai peut-être partir dans l'autre piscine, mais là, il fallait tester.
Même à ce tarif, pourtant, c'est un coût important pour l'intercommunalité. Chauffer le bassin revient très cher en période de grand froid.
Faustine Calmel. Le grand froid, justement, il continue de pincer dans 13 départements du nord du pays. 3 départements bretons restent également sous la menace de pluie verglaçante.
On en parle dans un instant. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et donc attention à cet épisode de pluie verglaçante qui va survoler le quart nord-ouest, Jean-Michel Golinski.
Absolument, en particulier le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan en vigilance orange. Il faut dire que les pluies qui arrivent par l'océan vont tomber sur des sols gelés avec ce matin 0 à moins 3 degrés sur la Bretagne. Un temps sec mais avec des températures en ce moment nettement plus basses sur le reste de la moitié nord et dans le nord-est avec par exemple moins 6 degrés à Tours et à Évreux, moins 5 à moins 7 en Rhône-Alpes, moins 7 à moins 9 du Nord-Pas-de-Calais à la Sologne et moins 10 à moins 13 dans le nord-est. Grand contraste avec la dizaine de degrés relevés ce matin dans le tiers sud. Et toujours le grand écart cet après-midi avec 10 à 15 degrés prévus sur les régions méridionales, mais souvent à peine 0 degré plus au nord. Avec ce matin un ciel dégagé, hormis vers la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin. En journée, les nuages de l'ouest vont gagner vers le centre, la Haute-Normandie, le Limousin et le Midi-Pyrénées.
À suivre dans quelques secondes, la main verte.